Econocom, nous tenions particulièrement à remercier la ville et l'Eurométropole de Strasbourg pour leur invitation à cet événement qui est la semaine du numérique responsable. Partenaire de longue date, nous vous avons accompagné dans les moments difficiles en cette période Covid qui n'est pas si lointaine que ça finalement. Et nous sommes également à vos côtés justement pour commencer à initier cette démarche du numérique responsable auprès de toutes les entreprises du bassin strasbourgeois. Je me présente rapidement, Gaëlle Masson, je suis en charge du développement au sein du groupe Econocom et j'agis au quotidien pour mettre en place des stratégies de numérique responsables au sein des entreprises et leur organisation. Et à mes côtés, nous avons Sylvain Huguet qui, lui, est en charge de développer des solutions concrètes pour pouvoir mesurer et réduire l'impact environnemental du numérique au sein des entreprises. Un petit mot rapide sur Econocom. Econocom est une société qui est pionnière dans le numérique responsable. On propose des solutions de financement de toute la transformation digitale des entreprises. On fournit également les matériels et les solutions informatiques. On a tout un tas de services numériques qui permettent justement de rallonger la durée de vie et d'optimiser la durée de vie des équipements. Et on a intégré récemment toute la partie reconditionnement du matériel dans, justement dans ce cercle vertueux qui est le numérique responsable. Pour ça, on est un petit peu plus de 8000 collaborateurs qui portons cet engagement au sein des entreprises sur une couverture européenne et on couvre les besoins des entreprises à hauteur de 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Quand je dis qu'on est pionnier du numérique responsable, c'est pas nouveau, c'est historique. Ça fait une cinquantaine d'années qu'on travaille justement sur des solutions concrètes qui permettent de les mettre en place. Et au-delà du fait d'être signataire de l'Institut du numérique responsable et d'être signataire également de Planète Tech Care, on fait partie des premières entreprises classées pour pouvoir mettre en œuvre justement ces aspects sociétaux. Et récemment, on a eu la médaille d'or EcoVadis pour justement cette reconnaissance de toutes ces solutions qu'on met en place chez nos clients. On a quatre piliers principaux pour pouvoir justement évoquer ce sujet-là. La première, c'est que la RSE chez nous, c'est pas l'affaire de juste un département, c'est vraiment intrinsèque à notre ADN, que ce soit du collaborateur jusqu'à la direction. On a vocation à porter ces sujets-là, que ce soit en interne auprès de nos collaborateurs et en externe auprès de nos fournisseurs et de nos clients. Donc, on est tous vraiment dans cette démarche vertueuse de prôner la RSE. J'ai un petit problème avec ce petit... Ça ne marche pas. Pas grave. Je vais vous raconter une petite histoire. Pourquoi est-ce que le sujet du numérique responsable me tient à cœur? C'est que ça fait une dizaine d'années que je suis maman. Et l'année dernière, sous un énorme orage de grêle qui a absolument détruit tous les arbres et tous les objets qu'on pouvait avoir autour de notre maison, ma fille me regarde avec ses yeux pleins de peur. Et elle me dit, maman, toi, quand tu étais enfant, tu avais de la chance. Il n'y avait pas le Covid, il n'y avait pas la guerre et il n'y avait pas tout ça. Donc, comment est-ce que je vais vivre, moi, plus tard, quand je serai grande? Qu'est-ce qui me restera pour vivre plus tard? Et là, je me suis dit, il faut agir pour la cause. Agir n'est plus une option. Et quand on fait partie d'une entreprise comme Econocom, non seulement on a le pouvoir d'agir pour nous-mêmes en tant qu'entreprise, mais on a le pouvoir d'agir pour nos clients. Et ce qu'il faut savoir sur l'impact du numérique aujourd'hui, c'est que ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre. On peut penser que 4%, c'est rien du tout. Mais en fait, c'est plus de 50% des gaz à effet de serre du transport aérien. Donc, quand on voit l'impact concret que peut avoir le numérique sur la consommation d'énergie, qui représente 12% de la consommation du marché français, c'est énorme. Donc, on peut agir au quotidien pour justement améliorer ça. Et si on ne fait rien, en fait, ce qui va se passer, c'est que si on ne change pas nos comportements dès aujourd'hui, à horizon de 2040, ces émissions de gaz à effet de serre liées au numérique va augmenter de 60%, ce qui est énorme. Donc, on a des leviers pour agir. Et ces leviers, c'est imaginer d'autres façons de consommer ces produits-là, de les penser différemment et de, au niveau des entreprises, d'investir également différemment. Donc, arrêter d'acheter pour utiliser et jeter, mais de penser cette économie circulaire directement au sein des entreprises. Ce qui permettra, du coup, de réduire la consommation de produits pour pouvoir fabriquer ces ordinateurs et ces téléphones de façon assez drastique. Et quand on compare les chiffres, on voit que seulement 20% des matériels suivent un circuit de reconditionnement et de réemploi. Donc, ça veut dire qu'on a un énorme levier pour agir de ce côté-là. Et on a vu également, depuis 30 ans, la durée de vie des ordinateurs et des téléphones se réduire drastiquement. Avant, on utilisait un ordinateur beaucoup plus longtemps. Maintenant, avec l'obsolescence technologique, on a tendance à renouveler en permanence les ordinateurs et les équipements, ce qui fait qu'on a réduit complètement la durée de vie du produit. Donc là aussi, c'est pareil, on a des leviers pour pouvoir rallonger un maximum la durée de vie de ces produits. La réglementation est du côté du numérique responsable, puisque ce qui se passe depuis quelques années maintenant, c'est qu'il y a des lois qui se mettent en place, notamment la loi AGEC, qui demande aux entreprises publiques de consommer 20% de leurs achats en matériel reconditionné et qui favorise justement ce réemploi et cette réutilisation. Il y a également depuis 2 ans l'index de réparabilité que vous pouvez voir un petit peu apparaître même dans la grande consommation, ce fameux IR là, qui incite les consommateurs à réparer leurs équipements plutôt qu'à les jeter. La loi RIN aussi, donc là, l'Eurométropole de Strasbourg est également touchée par ces différentes lois qui vont obliger les communautés à mettre en place une stratégie du numérique responsable dès 2025. Et puis, on a également des lois qui incitent les organismes publics et privés à privilégier le reconditionnement et le réemploi de ces équipements. Et puis, dernièrement, il y a des nouvelles démarches qui sont apparues. C'est toutes les entreprises qui s'inscrivent dans cette méthodologie SBTI qui vise à une trajectoire de décarbonation complète et d'atteindre le net zéro à horizon 2030. Pour pouvoir justement mener des actions en interne sur leur décarbonation, mais également en externe auprès de leurs clients et de leurs fournisseurs. Et puis, il y a la CSRD. Alors, CSRD qui va être mise en place pour les grandes entreprises à partir de 2024, mais également pour les plus petites entreprises dans les années qui suivent, qui va du coup être assez stricte sur les KPI pour pouvoir mener des actions qui vont dans le sens de l'écologie et dans le sens d'améliorer les impacts environnementaux et sociétaux, que ce soit sur le numérique ou d'autres sujets d'ailleurs. Donc concrètement, comment on peut faire pour mettre en place une démarche numérique responsable? Ben, tout simplement, c'est mener une stratégie qui permet de le faire en mesurant déjà les impacts actuels, puis en utilisant des technologies et des outils qui permettent de tracer ces impacts-là pour pouvoir partir d'un point de départ et mettre en place un plan de progrès. On va imaginer également l'intégration de l'éco-conception dans tous ces équipements numériques. Et puis, parce que ça ne se fera pas tout seul, on doit nous-mêmes, en tant que collaborateurs et en tant qu'utilisateurs et consommateurs, agir au quotidien avec des bonnes pratiques qui peuvent être anodines, qui peuvent prendre 2 secondes parfois en débranchant le câble d'un ordinateur qui n'est pas utilisé. Mais ce sont toutes ces petites démarches au quotidien qui vont faire qu'on va réussir ensemble cette démarche-là. Et puis, il y a le côté de basculer dans l'économie d'usage. L'économie d'usage, c'est quoi? C'est quand on pense que le produit qu'on utilise à l'instant T va servir à quelqu'un d'autre demain et à quelqu'un d'autre encore. Et du coup, c'est comme ça qu'on bascule dans l'économie circulaire. Puisque quand on pense location plutôt que quand on pense achat, on pense que le produit qu'on va utiliser à aujourd'hui va servir à quelqu'un d'autre demain. Donc, on vient quelque part prendre soin de ce produit en se disant peut-être que l'année prochaine, il ne me servira plus, mais il servira à une autre personne. Et donc, on rentre dans ce cercle vertueux qui est de passer de j'achète, j'utilise, je jette à je fabrique, j'utilise, je reconditionne. Un autre utilisateur va utiliser ce produit, on reconditionne, etc., etc., jusqu'à ce que ce produit-là vienne être démantelé. Et donc, la première question qu'on se pose entre le reconditionnement et le recyclage, parce que souvent, c'est un sujet qui pose question. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que le reconditionnement permet le réemploi des équipements, alors que le recyclage, c'est le démantèlement d'un équipement Et les pièces qui sont à l'intérieur de cet équipement vont servir en tant que sous-pièces à d'autres produits pour leur fabrication. Donc, c'est cette façon-là de repenser le cycle de vie des produits qui fait qu'on rentre dans une démarche vertueuse qui ne se met pas du jour au lendemain. Hein. Ça, c'est comme le marathon. Ce n'est pas parce qu'on a couru une heure pendant 2 km qu'on est capable de faire un marathon la semaine d'après. Eh ben, c'est un plan de progrès en permanence qui permet justement de rentrer et d'améliorer nos actions au quotidien. Et donc, ça fait quoi de mettre en place cette démarche numérique-là? Ça permet de, d'une, réduire l'impact environnemental, c'est ce qu'on a déjà vu, et puis ça permet d'améliorer l'impact sociétal. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises du reconditionnement créent de l'emploi. Donc là où on a tous les sujets d'intelligence artificielle qui sont en train de faire peur à la population en disant comment est-ce que vont être nos emplois de demain. Eh bien non, au contraire, nous, en manipulant les matériels et en donnant des secondes vies à ces matériels-là, on crée de l'emploi au niveau solidaire parce que ce sont des personnes qui sont en réinsertion professionnelle ou en situation de handicap qui ont besoin d'un emploi adapté à leur situation. Donc on fait travailler tout un écosystème social qui a cette vocation de réinsérer les personnes. Et puis, on optimise l'impact financier, puisque parler écologie, quand on est une entreprise, c'est bien, mais parler économique, c'est mieux. Donc, quand on vient combiner les avantages écologiques avec des avantages économiques, ça fait sens pour une entreprise et ça permet de mettre des modèles financiers qui sont pérennes dans le temps et donc d'être plus compétitif face à un environnement concurrentiel qui peut évoluer également de ce côté-là. Donc, l'économie de la fonctionnalité, c'est quoi? C'est un levier qui leur permet justement aux entreprises d'avoir une approche du coût complet et de mettre à disposition des produits, de les reconditionner, de les récupérer, de les remettre à disposition, etc. etc. Donc, on vient dans une démarche circulaire à optimisation financière. Et puis, on renforce l'engagement des collaborateurs. Pourquoi? Ben, pour les mêmes raisons que je vous évoquais tout à l'heure. C'est que moi, en tant que personne, j'ai envie de laisser un monde propre aux générations d'après. Et les générations qui arrivent sur le marché, toutes ces nouvelles générations, ont envie de travailler dans un écosystème d'entreprises qui ont conscience de cet impact-là et se greffer à ces projets sociétaux et environnementaux qui leur sont chers. Donc, je laisse la parole à Sylvain maintenant.
Merci, Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous et à ceux qui sont à distance aussi. Donc, effectivement, dans la logique du sujet qu'on vient d'évoquer, je voulais faire vraiment un point important sur la première étape qui est véritablement dans une démarche de numérique responsable. Quand on met en place une politique de numérique responsable, le plus important, c'est effectivement de savoir où on est, d'accord, d'où on part, ce qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir évidemment démontrer les actions vertueuses qui sont nécessaires. Alors, on verra dans une deuxième partie de la présentation, je reviendrai sur des exemples plus concrets. Peut-être qu'effectivement, des personnes ont déjà fait cette démarche-là. Donc, on va pouvoir confronter ces éléments et peut-être que ça sera une découverte pour d'autres. Donc, l'idée, c'est de vous donner un petit peu notre vision chez Econocom, comment on met en place ce sujet et puis comment il s'applique. Donc, vous voyez à l'écran, pour mettre en place une politique de réduction de son empreinte environnementale du numérique, on passe par 3 étapes, l'évaluation, la mesure, et la réduction. D'accord ? Donc, très concrètement, quand on parle d'évaluation, ici, c'est l'objectif dès le début de pouvoir capter un certain nombre d'assets, d'accord, d'équipements que vous pouvez avoir, et puis de les classer. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de pouvoir noter l'ensemble de ces équipements par catégorie. Et puis, on choisit plusieurs critères, hein, des critères environnementaux. Donc, on l'a cité tout à l'heure, on a parlé de l'indice de réparabilité. Mais évidemment, ça va être aussi évidemment son point carbone, ça va être sa consommation d'énergie, ça va être s'il est labellisé. D'accord ? Certains constructeurs utilisent des labels pour pouvoir indiquer que l'équipement est donc conforme aux différentes réglementations. Et l'objectif, c'est de pouvoir effectivement donner les équipements qui sont les plus verts, les plus green. Et puis, de deux façons, soit dans le choix que vous allez devoir faire au niveau de vos organisations dans les futurs renouvellements, ou alors sur votre parc existant, de classer votre catalogue existant et de pouvoir donner un indicateur à chacun des utilisateurs sur, en mettant une petite pastille verte, par exemple, en disant, ben voilà, le modèle, un des modèles qui est là est plus vertueux qu'un autre. Voilà, donc c'est un petit travail de notation, de classification que l'on fait au départ de notre prestation et qui permet déjà de planter un petit peu le décor sur l'environnement équipement que vous avez dans votre organisation. Le plus important, c'est cette étape-là, c'est la mesure. La mesure, c'est la photo à l'instant T, c'est d'où on part. Et là, le principe, il est que on va agir sur l'ensemble du système d'information. Donc, un système d'information, ça comporte évidemment des équipements, mais ça comporte aussi de l'infrastructure, ça comporte de l'applicatif, il y a du cloud, il y a du data center, il y a beaucoup de choses dans un système d'information. Donc, on va prendre la globalité du numérique. Et donc, nous, on est spécialisés en niveau expertise chez Econocom sur la partie du hardware, donc les équipements, tous les équipements qui composent le SI, d'accord ? Vous en avez des exemples ici sur la droite. Le principe, c'est qu'on puisse récupérer ces équipements et on les évalue. D'accord ? On met des éléments d'impact sur l'ensemble et on évalue l'ensemble du cycle de vie des équipements. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'on évalue les impacts sur la fabrication, les impacts sur l'usage et les impacts sur la fin de cycle. Fabrication, ça inclut toute l'extraction de matière, toute la transformation pour la création de l'asset, tout son transport et sa distribution. D'accord ? L'usage, c'est l'usage que l'on a pendant toute la durée de vie. Et puis la fin de cycle, c'est l'élément qu'évoquait Gaël précédemment. Donc voilà, soit il va à un moment avoir plusieurs vies, mais in fine, il va bien s'arrêter, même s'il a plusieurs cycles. Et donc, on va se concentrer sur cette partie-là. Ce qui est important dans cette démarche de mesure, encore une fois, c'est l'élément de départ de tout notre cycle. Et c'est de savoir d'où on part, les actions que l'on va mettre en place et le plus important, les mesures de ces actions dans le temps. D'accord ? De savoir si effectivement, quand on les met en place, elles se réalisent, à quel objectif on a atteint, pourquoi, etc. Et tout ça pour revenir sur le sujet par rapport à toutes les organisations qui nous écoutent, c'est que ces obligations qui vont venir au fur et à mesure, cette façon de pouvoir déclarer son empreinte, c'est la seule façon de pouvoir démontrer les actions de réduction que vous allez générer derrière. D'accord ? Donc, pour pouvoir générer des actions, il faut savoir d'où on part. Donc, c'est une méthode. Donc, nous, on utilise la méthode de la CV, analyse de cycle de vie, combinée à une méthode que l'on a développée pour le calcul des consommations énergétiques des assets. D'accord ? Donc, dans un milieu professionnel. Et la combinaison de ça nous permet de sortir un certain nombre d'indicateurs. Donc, on va évaluer de l'impact environnemental. Donc, on va évaluer du CO2, on va évaluer du kilowattheure pour l'électricité. On va avoir des équivalences sur des indicateurs climatiques qui vont être du genre de l'eau, de l'énergie primaire, des ressources rares. En fait, voilà, tous ces éléments qui permettent de comparer l'impact que vous avez quand vous fabriquez un asset ou quand vous l'utilisez. D'accord ? Et puis après, je pense qu'il y a des chiffres qui circulent pas mal sur le sujet, mais on le verra un petit peu plus loin aussi. Mais voilà, quand on fabrique un asset, 80% de son impact carbone est sur sa fabrication. D'accord ? Donc, il y a des enjeux très, très forts et c'est tout l'objet de notre discours. Donc, voilà comment on le met en musique aujourd'hui. On capte les informations, on les étudie et ensuite, une fois qu'on a sorti l'ensemble de ces résultats, la deuxième étape importante, c'est le fameux plan d'action. Donc, c'est comment on accompagne nos clients dans la mise en place d'actions par typologie d'équipement. D'accord ? Et par environnement, hein. Là, j'ai fait un focus sur les équipements, mais quand on étudie du cloud, il y a aussi une méthodologie adaptée. On va prendre des unités fonctionnelles, c'est le même principe. On sait aussi étudier de l'applicatif. Voilà. Mais si on reste sur notre cœur de métier, qui est le hardware, le matériel, eh bien, on va pouvoir effectivement, à l'issue de la mesure, aller sur ce plan de réduction où on va classer en fait un certain nombre d'actions. Donc, on vous a mis quelques exemples, hein, mais voilà, sur la fabrication, évidemment, ça va se faire dans le choix des matériels, ça va être des actions au niveau d'optimisation de votre parc ou de la mutualisation de votre parc. Sur la partie usage, eh bien, on va privilégier des équipements moins énergivores, on va privilégier l'allongement de durée, évidemment, ça, c'est un élément très fort dans l'argumentaire autour du numérique responsable. Les éco-gestes, c'est important parce que c'est l'implication des utilisateurs dans ce type de projet. Il faut bien aussi penser que ce n'est pas qu'un projet IT. Les utilisateurs sont fortement impliqués dans les projets à dimension RSE et c'est important effectivement qu'ils aient aussi leur participation sur ce point-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des actions, nombre d'actions que vous allez pouvoir mettre en place, donc nous, on a développé des matrices pour qui permettent véritablement mettre des indicateurs sur chacune de ces actions avec des objectifs et qui permettent aux clients de se dire « Ok, cette année, je vais m'objectiver peut-être à faire une réduction de 10%. » Pour faire 10% de réduction, sur quoi je vais agir ? Est-ce que je vais agir sur mes PC ? Est-ce que je vais agir sur mes écrans ? Est-ce que je vais agir sur mon infrastructure ? Est-ce que je vais toucher à mon réseau ? Voilà. Est-ce que je vais tout lancer en même temps ? Il y a plein de possibilités, il y a plein de combinaisons. Évidemment, c'est par rapport aussi au développement des entités, des entreprises et des projets, de la priorité des projets qu'elles ont. Mais au final, vous agissez évidemment sur vos futurs investissements, D'accord ? Donc, sur l'acquisition des matériaux que vous allez faire. Vous allez jouer sur l'optimisation de vos infrastructures. Donc là, il y a des gains. Alors là, notamment, beaucoup plus énergétique cette fois-ci. Donc, on est dans la partie usage où quand on touche à l'infrastructure et qu'on joue sur de la mutualisation et l'optimisation, on a des gains très, très forts. Et puis enfin, sur les usages qui sont pratiqués, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les éco-gestes, c'est embarquer les utilisateurs dans une façon différente d'utiliser d'acquérir son matériel informatique. Donc, Gaël l'évoquait tout à l'heure, effectivement, c'est une logique dans le renouvellement, c'est une logique d'avoir du matériel qui n'est pas forcément du matériel neuf. Ça paraît un petit peu… Nous, on a l'habitude un petit peu de le dire parce qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup et autour de ce sujet du reconditionné, mais c'est encore très, très récent. Et aujourd'hui, de dire à des utilisateurs, le prochain smartphone que tu auras, c'est un reconditionné ou le prochain laptop, c'est un reconditionné, ce n'est pas encore complètement rentré dans l'esprit collectif. Mais en tout cas, c'est ça la tendance. Et c'est comme ça, effectivement, par toutes ces actions-là, qu'on va pouvoir démontrer effectivement les fameuses réductions que chacun va devoir faire et qui, au final, amènera une réduction plus globale au niveau des différents secteurs économiques. Gaël, je te repasse la parole pour l'offre.
Merci, Sylvain. Donc, concrètement, comment ça se passe? Comment est-ce que nous, on accompagne nos clients pour justement se sortir un petit peu de ce casse-tête chinois d'attraper le sujet du numérique responsable? C'est un sujet qui n'est pas forcément évident à appréhender. Donc, on leur propose en fait de faire une analyse du parc avec une solution qui s'appelle EcoCarbon. Donc, ça permet de faire un audit complet et de faire un plan de progrès. De là, on leur propose des solutions qui permettent aussi bien d'optimiser les bilans financiers et la mise à disposition d'équipements neufs ou reconditionnés pour pouvoir améliorer l'impact environnemental. On vient les approvisionner et puis on vient rallonger le plus longtemps possible ces équipements avec des solutions de réparation, de reconditionnement, de remise à disposition de ces équipements pour justement rallonger la durée de vie le plus longtemps possible. Et puis, on vient gérer toutes ces secondes vies et on gère comment ces secondes vies. On gère ces secondes vies en logique de circuit court grâce à un site qui s'appelle Econocom Factory, qui est basé en France et qui permet justement de récupérer les matériels, de leur donner une seconde vie et de les remettre sur le marché en circuit court, principalement sur le marché français. Puisqu'il y a beaucoup de reconditionneurs qui envoient leurs équipements à l'autre bout de la Terre. Et là, l'impact environnemental n'est forcément pas top, puisque quand on prend la logistique associée à l'envoi de ces équipements, on vient forcément impacter le bilan carbone. Donc, on a un site qui emploie 125 personnes exactement, qui sont engagées justement pour le reconditionnement et pour améliorer l'impact environnemental de nos clients. Et c'est un site qui est une entreprise à mission. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le principe des entreprises à mission. Ce sont des entreprises qui ont une vocation et qui permettent de réinsérer les personnes qui sont loin de l'emploi avec des formations qui sont dédiées justement pour pouvoir apprendre un nouveau métier, puisque reconditionner, c'est un nouveau métier. C'est comme le disait Sylvain, c'est encore pas vraiment rentré dans les mœurs, donc notamment dans le marché des entreprises, elles sont plutôt organisées pour acheter du matériel neuf. Et ce qui est important justement de garantir, c'est le niveau de qualité, le niveau de service après-vente du matériel reconditionné. Et donc, nous, on a décidé justement de monter une école de formation pour justement reconditionner le matériel et à faire en sorte qu'il soit garanti pendant les 2 ans à venir de mise à disposition, donc à l'équivalence quasiment d'un matériel neuf. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que vous présenter une vidéo qui explique ça, c'est le plus simple pour vraiment voir comment sont manipulés les produits et reconditionnés.
L'aventure du groupe Econocom a commencé très précisément par l'achat-revente de matériel informatique reconditionné. 50 ans plus tard, nous sommes l'entrepreneur du numérique responsable. Econocom Factory dispose à date d'une capacité de traitement de plus de 600 000 devices mobiles et informatiques. Cela fait du groupe Econocom un acteur majeur du reconditionnement en Europe.
Nous proposons donc un service de reconditionnement de matériels digitaux. Nous avons internalisé toute la chaîne de valeur, Et donc, tout consiste à avoir une traçabilité complète de chaque produit qui rentre dans le processus, un effacement des anciennes données personnelles donc, pour rassurer nos clients, faire un audit et un test fonctionnel, donc 58 points de contrôle sur tous les produits qui passent dans la chaîne de production, pour identifier les pièces qui sont nécessaires à être réparées et les pièces à changer donc, sur le matériel, pour ensuite reproposer, après contrôle qualité, le produit à nos nouveaux clients.
Au-delà de l'impact environnemental, les attentes de nos clients reposent sur trois volets. Une qualité irréprochable des matériels reconditionnés, une disponibilité permanente de ces mêmes matériels et des prix très compétitifs. Seul un outil industriel de pointe permet de répondre à ces attentes.
Notre approche est une approche d'économie circulaire en circuit court et qui consiste effectivement à trouver des produits sur le territoire pour les amener donc dans notre usine de reconditionnement. Et pour les reconditionner, nous avons une école de formation qui forme nos techniciens et nos équipes donc aux actions de reconditionnement. Services clients et services après-vente sont aussi intégrés au processus.
L'impact environnemental du numérique triplera d'ici 2040. Il est de notre responsabilité collective d'agir.
Et en plus, 80% de l'impact environnemental d'un device est lié à sa fabrication.
De fait, le reconditionnement est un levier puissant dans la réduction de l'empreinte environnementale. En tant qu'entrepreneur du numérique responsable, notre ambition est clairement de devenir le leader européen du reconditionnement informatique et mobile. Nous allons réaliser cette ambition en maintenant le schéma vertueux de circuit court, qui consiste en approvisionnement, reconditionnement et commercialisation en local to local. Tout au long de ce processus, notre priorité reste la satisfaction de nos clients.
Ok. Alors effectivement, donc je reprends la parole sur la partie de l'analyse et de la mesure que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on voit bien dans l'explication du film que vous venez de voir concrètement. Alors on est sur la fin de cycle, on est sur la partie reconditionnée également, mais c'est complètement imbriqué dans le sujet qu'on a vu précédemment sur les analyses et la mesure. Ça fait partie des actions fortes d'ailleurs qui effectivement sont engagées pour pouvoir réduire son empreinte, et il va y avoir des axes importants. Je pense que vous avez entendu les quelques chiffres qui ont été cités. En effet, voilà, il ne faut pas penser qu'avec le numérique, on pourra réduire la consommation de CO2 comme ça, puisqu'il y aura toujours de l'achat de numérique. Il faudra toujours consommer. Donc, l'idée, c'est de savoir comment on le maîtrise, ce numérique-là. C'est ça, le vrai enjeu. Donc, effectivement, on a différentes façons. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure la mesure. Je n'ai pas évoqué aussi, mais on peut faire aussi une petite parenthèse sur un autre point de ce sujet-là. On donne aussi la possibilité de compenser quand on fait l'acquisition de matériel. Donc, ça vient en complément, j'insiste bien, en complément des actions de réduction que les organisations peuvent mettre en place. D'accord ? Donc, compenser, ça veut dire qu'on investit dans un projet à dimension développement durable, et ça vient effectivement compenser ou neutraliser, entre guillemets, l'investissement qui a été fait. D'accord ? Donc, quand on combine un ensemble d'actions de réduction avec le fait que sur ces nouveaux investissements, on intègre une compensation dans un projet dédié. Hein, donc, ça peut être un projet partout dans le monde. Ça peut être la plantation d'arbres en France, c'est ce que l'on fait, nous, dans notre pays. Mais ça peut être de l'investissement dans des projets de panneaux photovoltaïques en Afrique. Ça peut être de l'investissement dans des projets de forêt en Amérique du Sud. Ça peut être aussi pour résorber tout le plastique qu'il y a dans certaines parties en Asie. Voilà, donc c'est aussi des actions qui sont vertueuses et qui sont beaucoup utilisées. Je mets un bémol, ce n'est pas que de l'action de communication. Véritablement, il faut que ça soit intégré dans un plan global. Donc, quand on reprend ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire les utilisateurs qui s'investissent, le fait de réduire avec un plan d'action concret, le fait de pouvoir investir dans des projets à dimension développement durable, le fait de pouvoir intégrer aussi du reconditionné, vous commencez à empiler un certain nombre d'actions, là, mécaniquement, sans avoir vraiment voilà, tout concret, on voit bien quand même qu'il y a des plans qui sont mis en place et que les réductions, elles sont effectives et concrètes. Pour vous montrer ça, je vous ai prévu Mais oui, mais si j'appuie pas, moi, tant qu'on appuie pour moi. Mais non, en fait, c'est moi qui dois appuyer. Pardon. Je vous ai prévu concrètement un petit peu à quoi ressemblait une démarche au niveau de l'analyse. Donc, ces quelques graphes, je vais vous les commenter, mais l'idée, vous allez comprendre. Je vais vous montrer les 4-5 étapes clés très rapidement. La première étape, c'est les résultats. Reprenez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On récupère vos inventaires de données et à partir de ça, on commence à les étudier. Et puis, qu'est-ce que l'on sort ? On sort tous ces beaux graphiques où on va étudier d'un côté l'empreinte CO2 de fabrication. D'accord ? Donc, ce que vous avez en haut à gauche. Oui, on va étudier l'empreinte effectivement de fabrication où on va pouvoir sortir tout de suite les équipements qui sont les plus impactants. On va pouvoir étudier leur consommation d'énergie. Parfois, ce sont les mêmes, parfois pas. D'accord ? Donc, ça donne un autre axe et une autre vue. On va étudier l'âge du parc aussi parce qu'effectivement, c'est là où on va rentrer dans un cercle vertueux. Plus vous gardez votre asset, plus évidemment, les CO2 s'estompent et à un moment, on peut gagner sur des cycles. Et donc, c'est là où vous allez pouvoir engager véritablement des économies d'échelle. Et puis, vous le voyez aussi en bas à droite, on fait ce qu'on appelle de la classification énergétique. C'est une sorte de possibilité de voir effectivement où sont les masses des équipements et puis de pouvoir, le cas échéant, bouger. Alors, en l'occurrence, là, vers la gauche. Hein, plus on va vers le AB, mieux on est placé. Mais voilà, l'idée, c'est de donner avec ces différents résultats, l'ensemble des analyses concrètes pour commencer à préparer un plan d'action. Évidemment, c'est véhiculé avec les résultats qu'on aura calculés préalablement. D'accord ? Donc, les résultats, vous les retrouvez ici. Là, c'est une très grosse synthèse, mais voilà à quoi ressemble le résultat le plus macro dans une étude aujourd'hui d'ACV. Vous avez le nombre d'équipements étudiés. Vous voyez au milieu ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire le carbone, l'empreinte carbone, le CO2. Donc là, c'est exprimé en tonnes. Et puis, vous avez autour d'autres impacts sur les éléments que je vous ai cités tout à l'heure. Donc, on donne des équivalents en eau utilisés, des équivalents en énergie primaire, des équivalents en ressources rares. Voilà. Donc, ce sont des références. Et puis, la partie des 3 E pour la fin de cycle que vous avez aussi au bout. Donc, ce sont 4-5 indicateurs environnementaux qui permettent effectivement de positionner ces analyses. Et puis, vous retrouvez le fameux cycle de vie. Alors, vous voyez que là, on a un pourcentage qui est de 65%. On s'est dit, attendez, dans la vidéo, on a dit 80%. Puis moi-même, d'ailleurs, j'ai dit 80%. C'est une moyenne. Mais évidemment, plus vous avez d'éléments à étudier, plus vous avez d'infrastructures et plus ça rééquilibre les masses dans le cycle de vie. D'accord ? Quand on a une infrastructure lourde et que c'est beaucoup d'énergie, eh bien, on va avoir de l'usage beaucoup plus important. Là où, si on étudie que de la bureautique, en effet, on va avoir plutôt un Pareto 80-20 pour l'usage. Et c'est toujours très peu pour la fin de cycle, d'accord, en termes d'impact. Quand on a les résultats, on a l'analyse et on a les préconisations. Les préconisations, donc l'étape juste d'après, on commence à donner des simulations de potentiel d'économie à nos clients. D'accord ? Si je remplace tel asset par tel asset, tel modèle par tel modèle, Quelle économie je peux prétendre. C'est ce que vous avez en haut à gauche et à droite. Je vous ai donné pour des imprimantes et des desktops, en effet. Voilà, donc vous prenez les quantités et on voit, nous, avec les consommations, là, on est sur de la partie énergétique, les gains énergétiques que vous pouvez avoir sur ce segment-là. D'accord ? On peut avoir la même chose en combinant des remplacements de matériel, de typologie de matériel. Si on décide, par exemple, aujourd'hui, j'ai 40% de mon parc qui est en desktop. Pour information, un desktop, ça consomme 3 fois plus qu'un laptop. D'accord ? Donc, si on décide de passer de 40% pardon, à 20% ces desktops, donc de les combiner avec des laptops, eh bien, on va avoir des réductions importantes sur ces points-là. Sur les imprimantes, pareil, on peut avoir des notions autour des multifonctions. Enfin, voilà. Donc, vous déclinez ça à l'ensemble des équipements. Et puis, on a aussi des possibilités, effectivement, avec les allongements de durée, puisqu'on sait l'âge du parc. On a une référence par rapport à une date pour chacune des typologies, et donc, on sera dépassé ou pas les différents assets. D'accord ? Et puis, c'est comme ça qu'on évalue les pourcentages, les CO2, ce qu'on appelle les CO2 évités. Une fois qu'on a fait nos préconisations, ensuite, on met en place notre plan d'action que je vous ai cité tout à l'heure, et puis après, on va être dans le suivi. Le suivi, c'est de répéter cet exercice à des fréquences définies avec nos clients et nos partenaires. Hein. Donc, ça peut être semestriel, ça peut être annuel. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse avoir ce genre de photo, hein, qu'on voit la progression, qu'on espère dans ce sens-là. Hein. Quand c'est dans l'autre sens, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a plein d'explications aussi. Il peut y avoir une consommation plus importante si votre société a racheté une société qui fait la même taille. Donc, forcément, vous avez doublé. Donc là, on va devoir étudier aussi les éléments à isopérimètre pour savoir si les actions à l'intérieur ont bien été vertueuses. Mais évidemment, mathématiquement, si vous avez une boîte qui fait la même taille, vous allez multiplier par deux votre consommation par rapport à la, potentiellement par rapport à l'année précédente. Mais là, l'idée, c'est véritablement de pouvoir suivre. Pourquoi je mets en place ce slide-là ? C'est pour aussi démontrer qu'il faut choisir une méthodologie et essayer de la conserver pour avoir une homogénéité dans les comparatifs. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Et donc, c'est comme ça qu'on peut effectivement prétendre aux réductions sur lesquelles on s'est peut-être préalablement engagé. Et puis, une fois qu'on a fait cette partie-là, eh bien, on finit par une synthèse hein, qui globalise un petit peu l'ensemble de, de notre approche. Hein. Donc, on le voit à travers ces travaux, mais c'est tout ce que l'on a dit à travers cette présentation, ce qu'a présenté Gaël précédemment, mais vous l'avez matérialisé à travers un peu un cas client. Donc, si on devait resynthétiser un peu des éléments que recherchent les directions RSE notamment, direction de communication ou direction ressources humaines, ben voilà, on retrouve ce que l'on a étudié en haut à gauche. On met en avant ce qui est déjà très bien fait. Donc voilà, on a peut-être des clients effectivement ici pour celui-là qui a plus de 98%, 99% de certains de ses assets qui sont déjà très bien classés. Donc ses prochains renouvellements, il prendra à minima un modèle qui sera dans la même catégorie. Après, il pourra peut-être encore améliorer, mais en tout cas, ils seront dans les mêmes classifications énergétiques. On va pouvoir mettre en avant les CO2 évités. D'accord ? Parce qu'on n'a pas renouvelé immédiatement par un neuf, on a rajouté une année, on a rajouté deux années à une utilisation d'usage qui était prévue au départ. On ramène aussi tout ce que l'on calcule à chaque employé. Donc ETP, c'est ça, c'est employé temps plein. D'accord ? Donc c'est l'idée de ramener au final combien ces CO2 pèsent sur chacun des salariés. Et puis, on a aussi des indicateurs, évidemment, sur la fin de cycle hein, qu'on évoquait tout à l'heure. Plus le pourcentage effectivement d'équipement part dans la partie réemploi, et plus c'est vertueux, et plus le pourcentage effectivement de l'autre côté qui va aller lui en recyclage. Donc évidemment, c'est un indicateur qui est de plus en plus demandé par nos clients et qui est assez suivi. Et puis, on remet en avant eh bien, des potentiels d'économie. Ça, c'est ce que vous avez en bas à droite. C'est le résultat des simulations qu'on aura pu faire pour notre client. Voilà, s'il nous a demandé sur ses smartphones, sur ses écrans, sur ses imprimantes, on a fait le calcul pour lui et puis évidemment, on le ramène à la globalité de ce que l'on a étudié. Et donc, ça lui donne les potentiels d'économie sur lesquels il peut se baser l'an prochain, sur la prochaine année. Voilà ce qu'on voulait vous présenter cet après-midi à ceux aussi qui sont à distance ou à ceux qui sont présents. On est ouvert à vos questions. Ah, oui. Je me déplace.
Alors, Econocom, vous vendez du matériel neuf et reconditionné. Est-ce que vous voyez que la tendance est plutôt en croissance sur la partie reconditionné ou que, comment vous voyez l'appétence du marché par rapport au reconditionné en général sur votre périmètre ?
Alors, moi, je vais donner un élément de réponse et puis Gaël elle complétera. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le reconditionné, c'est assez récent dans le milieu professionnel. Alors, je pense qu'on a tous l'équivalent dans le monde de consommateurs. Je pense que certains utilisent peut-être déjà une certaine plateforme célèbre dans le monde, notamment pour ses smartphones et surtout si vous avez... des ados voilà, qui sont plutôt déjà partis là-dessus. Donc, je fais ce lien un petit peu en rigolant, mais c'est une génération qui est déjà ancrée là-dessus. Moi, j'ai une fille qui a 16 ans. Elle a eu que des smartphones reconditionnés et elle ne connaît que ça. Donc, ça ne la choque pas du tout. Donc, je pense qu'il y a déjà un aspect de génération. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est le rattachement entre le monde consommateur où on connaissait ce type de plateforme et d'utilisation. Et donc, après, adapté au monde professionnel. Là, c'est assez récent. Donc, aujourd'hui, on n'a quand même pas des courbes qui amènent du 50-50. L'achat neuf reste, en tout cas aujourd'hui, dans les activités que l'on constate, que ce soit en distribution chez Econocom, je pense chez Econocom, hein, en distribution, mais c'est représentatif du reste du marché, ou en leasing, ça reste encore quand même l'achat neuf. Les entreprises continuent d'acheter du matériel neuf. Ce qu'elles sont en train d'intégrer, c'est un pourcentage de reconditionnés. Et sur certaines typologies d'équipements, déjà, c'est pas effectif partout, vous voyez, surtout. Donc, ça marche très bien pour les smartphones, ça marchait pour les laptops, mais c'est pas déjà le même, on n'a pas déjà, nous, en tant qu'utilisateurs, la même façon de s'accaparer ce type d'équipement. Donc, ça va venir progressivement. Je crois que Gaël, tout à l'heure, a cité le pourcentage d'obligations pour les marchés publics aujourd'hui d'intégrer du reconditionné, d'accord ? Donc, ça signe fort, hein, c'est 20%, donc c'est pas neutre. Ça veut dire que ça viendra aussi progressivement dans un monde privé, mais il faut aussi ne pas oublier que derrière, il y a toute une industrie qu'il y a à mettre en place. Donc, de toute façon, on ne pourrait pas demain basculer comme ça à 80% de reconditionnés. Pour avoir du reconditionné, il faut avoir eu du neuf précédemment. Et il faut avoir eu quand même de l'infrastructure pour pouvoir débiter sur des organisations qui sont assez importantes. Donc, tout ça se met en place. Je pense que, voilà, après, moi, je suis pas spécialiste sur cette économie-là particulièrement. Je peux pas vous donner les projections de ce qui est prévu, peut-être qu'il y a des informations dessus. Mais en tout cas, aujourd'hui, on sent qu'il y a une prise de conscience, que ça commence à être intégré, que ça commence à être testé, que ça commence à être mis en place et que ça vient progressivement. Et que donc, ça va avec l'évolution des mentalités sur le sujet en global de devoir réduire son empreinte. C'est un des éléments. Mais somme toute, on est encore dans ce qu'on a connu jusqu'à présent pour la masse, quoi. Ouais. Est-ce que alors on a pris des questions dans le public, mais est-ce que quelqu'un souhaite à distance prendre la parole, peut-être poser une question? Je ne sais pas du tout où on en est sur le timing, mais
on en 10 minutes.
Voilà. Il reste 10 minutes. Donc il nous reste 10 minutes. Si à distance vous souhaitez nous poser, on peut prendre une ou deux questions. Ou pas. Hein. Okay. Bon. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci. Vous avez nos coordonnées. Donc voilà, si vous avez besoin de nous poser une question ultérieurement, si ce n'était pas pendant cette séance, on est à votre disposition. Merci.